Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la dernière librairie francophone de la saison. Aujourd'hui, émission spéciale et retour sur les grands moments de l'année avec des entretiens et des livres à lire absolument. Le Guinéen Tierno Monenembo porte un regard sans concession sur l'Afrique. Il a reçu cette année le Grand Prix de la Francophonie de l'Académie française. Vous entendrez le chanteur Henri Dess, qui était venu de Suisse pour l'événement Radio France Fête le Livre, un moment rare à la radio avec en prime une lecture étonnante de l'académicien Dany Laferrière. Le comédien Jacques Weber vous parlera de sa passion pour Gustave Flaubert dans un langage plutôt fleuri. Nous serons aussi avec l'auteur algérienne Kaoutera Adimi pour un roman magnifique qui nous emmène dans une librairie d'Alger, Kaoutera Adimi, qui a reçu cette année le prix Renaudot des lycéens. Nos libraires vous conseilleront aussi des livres à lire cet été, quelque part au soleil.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
L'écrivain guinéen Tierno Monenembo a reçu fin 2017 le Grand Prix de la Francophonie de l'Académie française. Voici son témoignage sur l'Afrique et vous allez l'entendre, c'est plutôt direct et sans langue de bois. Tierno Monenembo, vous êtes né en 47 à Porédaka, en région Peul, une région Peul de Guinée. Vous fuyez la dictature d'Ahmed Sékou Touré en 69. Vous partez au Sénégal à pied. Et puis ce sera la France en 73. Vos livres évoquent évidemment l'exil, l'histoire coloniale et vous critiquez fermement la politique en Afrique et notamment en Guinée. Vous n'avez aucune sympathie, dites-vous, aucune pitié pour les hommes politiques africains.
Aucune. Excusez-moi, je ne vais pas être insolent, mais on est dans une radio, mais franchement, ils sont, à mon avis, responsables de tous les grands malheurs du continent. Ils sont responsables de l'exode, des migrations honteuses qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui, les Africains sont redevenus esclaves en Libye. La faute à qui ? À nos dirigeants.
À nos dictateurs, vous allez dire.
À nos dictateurs qui ne s'occupent pas de la jeunesse. Il n'y a aucune politique pour la jeunesse. Il n'y a aucune politique économique rationnelle. La jeunesse africaine est abandonnée, en particulier en Guinée, parce que la Guinée, à mon avis, c'est l'exemple même de l'échec africain. C'est une catastrophe.
Et Alpha Condé, en Guinée.
Alpha Condé en Guinée, c'est aussi.
Qui est au pouvoir depuis 2010.
Il est pire que tous les autres dirigeants guinéens.
Ah, vous dites que c'est le pire de tous, et pourtant, Sékou Touré a été à l'origine de beaucoup de déplacés.
Il fut condamné à mort par Sékou Touré lui-même, mais sachant tout cela, lui, il aurait pu inventer autre chose. Mais non, il ressemble énormément à ses prédécesseurs.
Ouais. Alors depuis le roi de Kaël, prix Renaudot en 2008, le terroriste noir en 2012 qui a reçu lui aussi plusieurs prix, le grand public vous a découvert Tierno Monenembo et a pu déceler en vous une grande inquiétude, une grande réflexion sur ces enseignements tirés de l'histoire. Finalement, vous constatez, et on le lit dans vos livres, on n'apprend pas grand-chose, on oublie beaucoup de choses en tout cas de l'histoire.
En train d'oublier, puisque précisément l'histoire est dure à porter. L'histoire moderne est une tragédie. Il faut oublier sans oublier. En quelque sorte, il faut supporter. On oublie un peu pour supporter, mais ne pas totalement oublier pour reconstruire la mémoire. Parce qu'il faut bien transmettre quelque chose à ceux qui sont en train de naître. Il faut bien que les jeunes qui sont en train de venir sur Terre sachent ce qui s'est passé avant eux pour qu'ils tirent la leçon justement de l'histoire. Mmh. L'histoire est une leçon. Et cette leçon n'a pas été tirée en Afrique. La mémoire était trafiquée. On ne la transmet pas aux nouvelles générations. Ouais. On a perdu toutes les valeurs traditionnelles, on n'a rien gagné des valeurs modernes.
Quel regard portez-vous sur la France, Tierno ? Parce que quand vous parlez du colonisateur dans vos livres, vous ne jugez pas. Vous prenez sa place quelque part. Mais vous ne vous gênez pas non plus pour fustiger la Guinée, on l'a entendu tout à l'heure. Pour fustiger la France aussi, vous dites que c'est une nation tortionnaire qui a vite oublié les choses.
Mais bien sûr, mon regard sur la France ne peut pas être objectif. Parce que précisément, j'ai été français très tôt. Je suis né sous la colonisation française. J'ai appris la langue française à l'école, en même temps que les petits français, en gardant mon accent, bien évidemment. Je suis partie prenante de l'histoire de France, tout en n'étant pas né français. Mmh. Donc c'est très compliqué, c'est très complexe.
Complexité même lors de l'apprentissage de la langue.
Absolument.
Car à l'école, on vous obligeait à parler français.
Bien sûr.
Et dans votre village, on vous obligeait à parler peul. Et on vous tapait à chaque fois.
À chaque fois, de deux côtés.
Donc vous aviez une punition.
À la fin, on est devenu presque muet.
Ouais, c'est à l'âge de 12 ans, vous avez décidé d'être muet, vous. C'est vrai, en plus, cette histoire.
Oui, on a été...
Vous n'avez plus parlé.
On ne parlait plus parce que, des deux côtés, la langue était interdite. Et ça, c'est parce que les pouvoirs, c'est des pouvoirs qui décrètent même la langue.
Justement, Tierno Monenembo, que faites-vous des honneurs? Être distingué comme ça par l'Académie française, recevoir le Grand Prix de la francophonie et une somme d'argent importante au passage, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous en faites de cet honneur-là, vous?
Alors, je ne sais pas trop quoi faire des honneurs, je n'en ai pas souvent reçu, mais c'est toujours mieux que le déshonneur. Ce qui est dangereux, ce qui est absolument insupportable, c'est le déshonneur. Mieux vaut encore l'honneur, malgré les flonflons et les oripeaux, que le déshonneur.
Et les sirènes.
Et les sirènes. Heureusement, à l'Académie française, il n'y aura pas de sirènes, je pense bien.
Merci beaucoup, Tierno Monenembo. Merci infiniment d'être venu dans la librairie francophone. Vos romans sont publiés aux éditions du Seuil. Le dernier en date, Bled, nous emmène en Algérie, où vous avez enseigné en tant que coopérant il y a quelques années de cela. Et Le terroriste noir est paru en poche chez Point.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et on part dans le studio 105 à Radio France pour une rencontre inédite entre Henri Dess et un certain Dany Laferrière. C'était à l'occasion de Radio France Fête le Livre en novembre dernier et en public.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
RTBF La Première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
La librairie francophone à la Maison de la Radio pour l'événement Radio France Fête le Livre avec l'invité d'honneur Dany Laferrière et le chanteur et auteur pour enfants, chanteur culte Henri Dess. Henri Dess, très très rare dans les médias. Merci beaucoup Henri d'être avec nous. Vous êtes le héros des enfants, le héros des parents aussi qui ont pu calmer leurs enfants ou bien ces parents qui connaissent vos chansons par cœur à force de les avoir écoutées dans la voiture ou ailleurs. Et vous avez une carrière exceptionnelle. Vous avez produit 36 albums. Alors en France et en Suisse, 23 écoles, 32 écoles,
ouais.
2 crèches, 3 centres de loisirs, c'est ça? 2 écoles de musique.
Ah oui, si vous additionnez tout ça, ça fait...
Ah oui, c'est ça, j'additionne. Porte votre nom, Henri Dess.
Voilà. Oui. Ouais.
Quel effet ça vous fait?
Ça me fait plaisir.
Pas plus que ça?
Non, c'est très étonnant. C'est la première fois qu'on m'a envoyé une lettre pour me demander si j'étais d'accord que mon nom paraisse sur le fronton d'une école. J'ai cru que c'était une farce, quoi.
Ouais.
Donc, on s'est renseigné, on s'est aperçu que c'était pas une farce et je suis allé pour l'inauguration de l'école. Et après, il y en a d'autres qui ont suivi. Et chaque fois, c'était une émotion assez intense, évidemment. Parce que les gens me choisissent moi plutôt que Jean de La Fontaine ou je sais pas qui. Puis je veux dire, je pensais que c'était des choses qui n'étaient pas réservées à des gens encore de ce monde. Je pensais que c'était des trucs comme ça pour
les
morts, ouais, pour les disparus. Ouais. Et c'est tombé sur moi et puis j'en suis très très fier. Et
vous êtes très rare dans les médias. Alors tout ça sans communication médiatique quasiment, hein, parce qu'on vous voit jamais à la radio, à la télévision. Vous gardez une part de mystère comme ça, en tout cas une réserve.
Oui, mais j'ai beaucoup de plaisir à être chez vous. On rigole beaucoup ici, je trouve.
Bah, les émissions en public, on rigole toujours.
Oui, c'est ça.
Hein? Surtout avec vos enfants qui sont là.
Écoutez-les,
ils sont là. Ce sont un peu vos enfants. 150 lycéens dans le public, là.
Bah, je ne sais pas s'ils connaissent mes chansons, les lycéens d'aujourd'hui.
Ouais. Si. Ah, si.
Bon essai. Bon, on va chanter, alors.
Cette reconnaissance est incroyable, elle s'explique sans doute par votre compréhension du monde de l'enfance. Vous dites « je suis un adulte qui comprend le monde des enfants et qui en parle ».
Oui, on me demande parfois si je suis un enfant. Il faut avoir une part d'enfance, évidemment, il faut avoir une part de fraîcheur. Mais je suis un adulte qui essaie de comprendre ce monde-là. Et je pense qu'on ne peut pas écrire des choses sur l'enfance si on n'est pas en face des enfants, si on n'a pas d'enfant soi-même. Je pense que j'aurais jamais fait ça, j'avais pas eu un môme. Fils qui m'a donné envie de faire ça. J'ai fait une petite carrière d'une dizaine d'années de chansons pour adultes, qui a marché moyennement, ça. Et puis un jour, avec mon petit bagage d'auteur, j'ai décidé d'écrire pour lui.
Et voilà. Puis ce sont des chansons, des histoires qui ne sont pas marquées par le temps. Et votre nouveau livre CD, Le Train Fantôme, en atteste une fois encore. C'est ça le secret, être intemporel, être universel, Henri Dess?
C'est-à-dire que j'essaye pas d'écrire des choses qui sont marquées justement par l'actualité. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis très intéressé par la politique, je l'écoute, je vote, je m'intéresse à tout ça. Par contre, dans mes chansons, j'écris des choses qui sont simplement des petites chroniques de la vie des enfants, de leurs bêtises, de leurs petits soucis, leurs chagrins. Et je raconte un petit peu ça.
L'actualité des enfants.
Daniela Ferrière.
Vos petites chroniques forment l'actualité des enfants. Voilà, ils sont dans un monde aussi extrêmement organisé avec leur politique particulière, leur actualité particulière.
Tout à fait.
Où le crocodile a une place importante.
Oui.
Le crocodile a une place importante. Vous êtes génial. Mais Dany anime l'émission avec moi aujourd'hui. Et en fait, il me fait la transition formidable, l'air de rien, puisque vous allez prendre un bain avec nous maintenant. Dany Ferrière, on vous a installé une baignoire. Non, je plaisante. Vous allez prendre un bain parce que vous aimez les bains. On va vous mettre un crocodile dans votre bain. Vous allez lire donc un texte d'Henri Dess qui figure sur le livre CD qui vient de sortir. C'est une surprise pour vous, Henri Dess.
Ah, ouais.
Voici Crocodile. Je vais vous faire signe, Dany. On va envoyer la musique. Crocodile, lu par Dany Ferrière de l'Académie française.
Je suis parti pour la ville, je suis parti ce matin faire les courses tranquilles, acheter presque rien, juste un petit crocodile pour mettre dans mon bain. Oui, mais les crocodiles, ça vous mange la main. Et ça n'est pas facile à mettre dans son bain. C'est surtout inutile et c'est pas bien malin. Surtout si le crocodile veut te manger la main. Paraît que c'est difficile de s'en faire un copain. Mais s'il reste immobile, on est sûr de rien. On m'a dit qu'au Brésil, on en trouve tout plein. Mais pas dans les villes, ni dans les salles de bain. C'était mon copain, le crocodile. Un ami à qui je serre la main.
Ah, c'est une jolie surprise. Hein. Merci beaucoup.
Non, mais c'est l'ambiance totale.
En plastique, paraît-il que ça ne risque rien.
En plastique, paraît-il que ça ne risque rien.
Avec votre voix derrière, Henri Dess, votre voix, on avait mixé la voix, mais vous l'avez un petit peu mangé parce que vous avez parlé dessus, mais c'est pas grave. Voilà, Henri Dess, cette surprise de Dany Ferrière. Quelle est la meilleure façon de s'adresser aux enfants pour vous, Henri Dess?
J'en sais rien. Non, je sais pas, j'écris pas sur les idées. On me dit pas, tiens, je me dis pas un jour, voilà, je vais écrire une chanson sur ce thème-là. Jamais.
Jamais.
Ça part toujours de la musique. C'est la musique qui compte dans un premier temps. La musique amène quelques mots qui se marient ou pas avec avec cette mélodie, et ces mots sont entourés d'autres mots, une sorte de fratrie, et finalement ça commence à me faire le tout début d'une idée.
Ouais.
Et c'est partir de là que ça commence. Donc en fait, je sais jamais ce que je vais écrire quand je commence.
Dany Ferrière, vous avez écrit pour les enfants aussi. Je suis fou de Vava en 2006.
Oh oui, mais je ne crois pas à l'enfance. Je crois que c'est une chose qui continue complètement dans l'air et qu'elle va, qu'elle vient et qu'elle est toujours là ou jamais là. Mmh. Il y a des enfants à chapeau, des gens qui naissent à 6 mois, ils ont un petit chapeau gris, ils sont là. Et d'autres qui continuent jusqu'à la fin.
Vous avez un chapeau aujourd'hui.
Oui. Mmh. Et tout à l'heure, j'entendais Henri Dess parler. J'ai pensé à un autre enfant. Lui, il avait un petit visage rond avec une cigarette au coin de la bouche. Il mangeait les mots. Il était là, il s'appelait Jacques Prévert. Et tout ce qu'il disait à propos des écoles, à propos du fait qu'il ne comprend pas pourquoi il y a 32 classes, et je sentais que c'était le cancre de Prévert qui parlait. Enfin, le cancre salué sur les frontons des écoles.
Oui, oui, c'est un peu ça. Oui.
Vous êtes un artiste multigénérationnel, Henri Dess. Il y a des jeunes parents aujourd'hui qui viennent vous voir avec leur progéniture. Ils vous ont écouté eux-mêmes et puis ils arrivent avec leurs enfants qui écoutent à leur tour vos chansons.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai en fait 3 générations parce que vu mon grand âge, ça me permet d'avoir 3 générations.
Alors si je peux me permettre, vous faites très jeune, Henri. Hein.
Oh, vous êtes très gentil.
Non, mais vraiment. Hein.
Mais en fait, je suis très très vieux.
Non, mais j'étais surpris en vous voyant arriver, parce qu'on vous entend parler de vous depuis tellement de temps.
Ouais,
quand vous êtes arrivé, j'ai dit, mais cet homme de 50 ans est incroyable.
50 ans, vous êtes très gentil. Mais...
Vous aussi, Dany Ferrière, vous mettez en musique vos textes. Il y a une musicalité dans votre écriture.
Oui, oui.
Il y a un relief à chaque fois.
C'est vrai. Ouais. Il y a que dans l'écriture. Sinon, j'ai pas d'oreille, j'entends pas, je confonds Donna Summer avec Mozart. Je comprends pas. D'ailleurs, les gens me demandent toujours, mais comment ça se fait que tu aies vécu 40 ans au Québec et tu n'aies pas pris l'accent? Mais j'entends pas. C'est vrai, les gens me parlent, je vois, ils font des gestes avec leur bouche, mais j'entends pas ce qu'ils disent. Je suis muré dans l'enfance, mais il y a une musique intérieure.
Oui,
il y a quelque chose qui bouge, et la musique, quand je fais silence, je l'entends. Une phrase ne vit que si elle est rythme et émotion, donc musique.
Très bien. Une question pour Henri Dess, pour terminer, Dany.
Une question ?
Oui.
Pas du tout, une réponse, simplement.
Allez-y.
Le remercier d'avoir illuminé toutes ses enfances.
Ben, merci beaucoup.
Henri Dess, mesdames et messieurs, Henri Dess, dans la librairie francophone. Et il y a Annick Dor, notre libraire belge, qui veut s'adresser à vous. Annick.
Oui, mais c'est vrai que oui, vous avez enchanté ma génération, et puis c'est vrai que mes enfants aussi chantent à tue-tête vos chansons. Alors c'est vrai que dans le disque là qui sort, on retrouve toute la fougue habituelle de vos chansons, un rythme cadencé, des petites percussions et autres sons rigolos. Un cœur d'enfant, toujours aussi, et puis des rimes amusantes, et puis un sens de la simplicité qui fait mouche. Donc voilà, à tous les coups, ça séduit.
Très bien, merci beaucoup Annick. Chanson Fou Rire d'Henri Dess et le livre Le Train Fantôme d'Henri Dess, paru aux éditions des Braques, je crois. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Henri. Merci d'être venu de Suisse pour la librairie francophone. Merci beaucoup.
Et à suivre, le comédien Jacques Weber pour un entretien très étonnant sur Flaubert. Et voici le nouveau titre du chanteur Eddie De Pretto, qui est la révélation de cette année 2018. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Je colonise ton sein pas à pas, je domine le reste. Tout ça m'appartient en deux, deux et en un seul geste. Tu seras le mien, tu verras, je serai ta secte. Je t'érigerai exactement tout comme je le souhaite. Je marquerai ton bout de mes visques suçons, pour pas que tu cours vers d'autres vices cochons. Je t'assurerai ta mouille à l'un de tes cheveux longs, de mon drapeau rouge et de mes imposants jurons. Tu ne seras que fier quand alors tu joueras les mères, lorsque je t'offrirai soudain tout un tas de joyeux gamins. Tu n'auras qu'à faire à l'heure et surtout bien te taire. Tu auras alors à terme une grande envolée de bons points. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, de tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, de tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. J'épuiserai ta flamme pour remplir mes mains du nerf de la guerre et comme un grand malin. Moi je jouerai aux dames, moi je ferai conquête, sans trop que je tarde, juste un poil malhonnête. Tu seras sans fringue et bien à ma guise. Je t'habillerai de rien, juste de poignes possessives. Ils le verront bien que la terre est déjà prise. Ils verront mon flingue, oui mieux que ma main mise. Je me chargerai aussi que tu n'aies plus de choix. T'étaleras ainsi tout un tas de lois que tu repasseras sans te commander, car il n'y a que toi qui sais bien les plier. Puis je te caresserai comme pour t'apaiser, t'imposerai des chutes pour pas te révolter, te bloquerai la nuque sans que tu révulses, et je serai doux pute. Je serai fou. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. Quoi n'as-tu plus besoin de mon torse? Quoi n'as-tu plus besoin de moi lorsque dans la rue tu seras seul sans escorte? Dis-moi comment vas-tu faire sans écorce? Quoi n'as-tu plus besoin de conseils? Quoi n'as-tu plus besoin de mes règles? Entends mes forts, je t'aime et te surveille. Tu verras comme dehors c'est sans soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil.
Eddie De Pretto, quartier des Lunes sur RTS La Première, RTBF La Première, France Inter et sur ICI Radio-Canada Première. Jacques Weber est donc avec nous pour un récit double. Vous racontez une partie de la vie de Flaubert, Jacques, en alternance avec quelques moments de votre propre vie. Comme si Flaubert avait envahi, avait investi la personnalité de Weber. Écrire un roman récit sur Flaubert, c'est assez osé aujourd'hui, non ?
Oui, mais j'ai essayé de, comment dirais-je, de surfer sur une légitimité que je m'octroyais, qui était celle d'un acteur qui rôdait autour d'un grand personnage de la littérature, donc qui rôdait près de la littérature. Et c'est ce chemin qui fait que j'ai essayé de reconstituer un peu les ricochets qu'il peut y avoir entre la lecture d'un texte, l'appréhension d'un rôle et votre propre vie. Et il est bien évident qu'à ce moment-là, on trouve fatalement des petits ponts entre soi et
des points communs, ouais.
Et le rôle, c'est ce qui crée d'ailleurs cet autre personnage qui est fatalement le personnage que vous interprétez.
Alors que vous venez de renverser votre café, je vais dire à ceux qui nous rejoignent de surtout rester à l'écoute parce que Flaubert est très contemporain et vous le démontrez parce que il est question de bourgeoisie, de sexe, d'amour, de philosophie. Que vouliez-vous transmettre de Flaubert ? Quelle était l'intention première, Jacques Weber ?
C'est ce paradoxe permanent, ce grand écartèlement qu'il y a entre l'ermite de Croisset, l'homme douloureux, l'homme terrorisé par la mort dès l'âge de 7 ans, dans ses écrits très très jeunes et même dans Novembre, il y a déjà des traces qui sont toutes proches du suicide. Il ne faut pas oublier que ce môme regardait par le soupirail son père, qui était un grand chirurgien de l'époque, faire des autopsies, voire découper des cadavres. Je crois que ça marque toute son œuvre. Mais derrière ce mysticisme presque noir, quoi, il y a une gourmandise, il y a un appétit de la vie, particulièrement lorsqu'il est jeune. Oui, lorsqu'il est jeune, c'est réellement un cutard, oui, c'est vrai.
Ah, c'est ça, c'est... Oui, un cutard.
Et il s'en vante même tellement qu'on pourrait même se poser des questions sur la réalité des faits lorsqu'il dit « j'ai tiré 4 coups, c'était une nana
». Ça vous plaît, hein, Jacques Weber, ça.
La femme entretenue envahit la débauche comme le journaliste la poésie, ça, je trouve ça, j'ai bien aimé cette phrase.
Oui, le côté paillard, comme ça, de Flaubert.
Mais c'est beau, la paillardise, parce que est une... Une espèce de chanson de la contradiction de la vie permanente. Et ça, ce grand écart, on le constate chez beaucoup d'acteurs, chez beaucoup de gens de lettres, chez beaucoup d'êtres humains. Regardez ce que j'en parle dans le bouquin, mais je parle d'Étienne Rodagil qui m'a fasciné, mais je parle aussi de Gérard Depardieu. C'est vraiment cet écart tellement là, ce jeu extrêmement féminin, délicat, totalement épuré, comme la langue de Flaubert dans Madame Bovary, et puis ces espèces de grands éclats d'ogre qui vous bouffent 4 entrecôtes en 5 minutes au petit déjeuner.
Et avec cette envie permanente, je cite, de foutre au bout du gland.
C'est ce que vous
écrivez plusieurs fois, hein, vous vous régalez, Jacques. Bourgeois un peu comme vous aussi, hein, Jacques Weber. Alors, vous assumez-vous ce statut de comédien de théâtre en bourgeoisie ?
Parce que j'ai même pas l'assumé, c'est que c'est la réalité de 80% des gens de mon métier qui travaillent. Nous sommes généralement soit dans une classe bourgeoise, soit nous y aspirons de par les chemins de la réussite qui nous attire tant. Alors maintenant, comme le fait très très bien Flaubert, faut bien discerner l'esprit bourgeois, la pensée bourgeoise et le statut bourgeois. Mais ce qui est formidable, c'est que si Flaubert est un bourgeois, c'est bien lui. Il peut même, c'est même au-delà, puisqu'il peut vivre de ses propres rentes, mais il est dans une maison extrêmement cossue, il y a eu une fortune, il y a tout ça. Simplement, ce que je trouve formidable, c'est qu'il ne dit pas « vivre en bourgeois et penser en Dieu », il dit « en demi-Dieu ».
En demi-dieu. Oui, en demi-dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
J'ai l'impression que c'est ce petit pont encore entre l'humain et le divin, quoi. Et cette espèce de contradiction qu'il y a entre vivre en bourgeois, penser en demi-dieu, c'est exactement la contradiction des acteurs avant et après l'entrée en scène.
Alors, on trouve justement cette réplique dans ses correspondances avec son ami Louise Collet en août 1853. On peut d'ailleurs retrouver toute la correspondance de Flaubert en 5 volumes dans la Pléiade.
Cinq volumes qui subsistent, puisque, comme vous le savez, au départ, il ne voulait pas, enfin il le disait, ne voulait pas être édité.
Et surtout, c'est sans doute le plus intéressant dans l'œuvre de Flaubert, la correspondance. Plus intéressant que ses romans.
Ah, ça je crois pas.
C'est un avis personnel. Bon, en tout cas, c'est un personnage ambivalent, hein, Gustave Flaubert. Laborieux, vous racontez qu'il s'impose d'écrire chaque jour des lettres, la suite d'un roman et de lire un chef-d'œuvre. Et en même temps, c'est un personnage contemplatif qui est attaché aux détails et aux réflexions sur l'existence. Il est d'ailleurs fan de Balzac, très inspiré par Balzac lui-même, attaché aux détails, à l'existence.
Oui, alors à ceci près que Balzac lui observe une société et que Flaubert observe un individu, de façon presque entomologique, quoi. Enfin, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je compare maintenant avec cette facilité déconcertante et dangereuse de Google. où on peut s'informer sur tout. Par exemple, si vous écrivez sur un pharmacien, bah, vous allez développer tout, pharmacie, pharmacien, pharmacologie, etc. Bon, lui, il décide justement cette notion du détail. C'est un travail de titan. Il donne ce conseil, je ne sais plus à qui, je crois que c'est à Maupassant, où il dit, tu regardes un arbre, ça, et tant que tu n'es pas capable de le décrire, tu ne bouges pas de devant cet arbre. Ouais. Ça, c'est magnifique.
Flaubert, qui est
et
un
ça
maître,
me rappelle
hein, pour
les très grands metteurs en scène, qui sont des gens qui travaillent le détail comme un fou.
L'ambivalence de Flaubert, c'est aussi de détester son siècle, mais d'en avoir besoin pour écrire. De fréquenter salons de la bourgeoisie parisienne pour pouvoir mieux les critiquer, de dévorer les femmes dans une sexualité presque animale et de leur écrire ensuite de longues lettres, à Louise Collet notamment, et c'est de là que l'on tire ses correspondances, car il aimait beaucoup écrire, Gustave Flaubert, ce n'était pas un sauvage en société,
il
pas
écrit,
du tout.
Non seulement il écrit à Louise Collet, qu'il trompe souverainement, qu'il envoie balader, ça c'est un des chapitres que j'ai réinventé par rapport à ce qu'il écrit, c'est que vous vous rendez compte que faire Paris-Rouen à l'époque, c'est considérable. C'est ou le train ou la calèche. Je pense que c'était quand même le train pour ce qui concerne Louise Collet. Mais vous vous rendez compte, cette femme célèbre, célébrée à Paris, se tape le train, veut à tout prix le voir, elle est à la porte de Croisset, et il l'alourde, il dit non, je peux pas, je travaille, m'emmerde pas. Et après, il est totalement sidéré qu'une fois de plus, elle lui dit adieu, je te quitte, c'est fini, c'est terminé. Il dit mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je deviens commun et bedaine à faire vomir? Et il a cette phrase hallucinante, il dit, est-ce que j'entre dans la classe de ceux que la putain est embêtée de piner? C'est totalement fou. Mais Dieu merci, il y a bien d'autres choses.
Ah oui, il y a plus de choses que ça, heureusement.
Quand vous relisez les voyages en Orient, quand vous lisez par les champs et par les grèves, c'est tellement, ça donne une telle envie de voyager que ça m'a renvoyé à moi mes grandes balades en Bretagne ou mes grandes balades en Orient. Et quant au bordel parisien, ça m'a renvoyé au bordel que j'ai connu à une époque au Chili.
J'allais dire cette volonté d'être utile, mais en fait, les bordels. Vous étiez bien parti, voilà. Ça faisait un super enchaînement.
Oui, mais c'est ça la surprise.
Et hop, les bordels, quoi. Bon, on va être utile un peu, écoutez quand même.
Très bien.
Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. La, 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 la.
Quand Agile, moi, ça me bouleverse. En plus, là, il chante très bien.
Julien Clerc.
Julien. Ouais. Mais c'est une des dernières chansons, je crois, d'ailleurs, d'Étienne.
Ouais.
Mais c'était, alors lui, voilà, c'était un... Alors moi, je voulais qu'il joue, parce que je l'avais croisé en train de discuter à la closerie des Lilas avec un autre, Solers.
Ouais.
Et je voulais qu'il joue le neveu de Rameau, les deux. Et que Rodagil aurait joué un neveu de Rameau formidable, parce que c'est une espèce de perdant de génie, avec les doigts jaunes par les clopes et tout. C'était magnifique, vraiment, c'était magnifique.
Elle pourrait être la bande originale de votre livre, hein, cette musique de Julien.
Dans quel sens? Dans le sens de l'utilité.
De l'utilité, puis de la fréquence aussi que vous avez de parler de l'utile et de citer cette chanson et de citer Rodagil plusieurs fois.
Ben oui, parce que Rodagil, je crois qu'il avait aussi, il avait ce tempérament dans la discussion. De la broussaille, de générosité qui se perdait un peu dans tous les sens. Et c'était extraordinaire, il disait sur n'importe quel sujet, il dit « Ah, mon ami, j'ai la cam. » Alors moi, il devait m'écrire une pièce sur Michel-Ange, j'en ai jamais vu le bout, mais peu importe, les discussions que j'ai eues sur Michel-Ange, et moi, j'étais responsable d'un théâtre public, donc vous voyez, c'était quand même un peu emmerdant que j'en vois pas le bout. Et c'était des voyages absolument hallucinants, ce génie de la digression. Et ça, Flaubert l'a totalement dans sa correspondance.
Et qu'est-ce que c'est être utile pour vous aujourd'hui, Jacques Weber?
Ben, c'est une très bonne question, mais j'ai l'impression que c'est peut-être réentretenir l'utopie. Enfin, contrairement à ce que disent les politiques, c'est soit des gens solitaires, soit le peuple qui a bougé les États. C'est jamais le contraire. Donc toutes ces grandes... Voilà, enfin voilà. Mais être utile, c'est peut-être rester utopique et toujours pratiquer l'esprit de liberté.
On va juste terminer avec cette phrase que vous confiez dans ce livre alors que vous vous mettez à écrire. Comme Balzac, je me drogue au café. Comme Flaubert, je me gratte souvent les couilles, puisque je n'ai personne à qui parler.
Voilà. Bah oui, je trouve ça marrant. Ça me fait rire tout seul.
Oui. Ça fait rire aussi.
Mais parce qu'en plus, c'est vrai, ça sort du cœur, pour ne pas dire ça sort de la culotte, mais c'est vrai. Voilà.
Bon, merci Jacques Weber.
Merci à vous, merci à vous.
Vivre en bourgeoisie, penser en demi-dieu, Gustave Flaubert par Jacques Weber est publié aux éditions Fayard.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Et chose promise, chose due, cette semaine, nous vous proposons des livres à découvrir, à lire ou à emporter pour vos vacances cet été. Et on va commencer entre la Suisse, la Belgique, le Canada ou la France. Tiens, je vais piocher pour une fois, il n'y a pas d'ordre. Et ça tombe sur Dominique Bressou. Pour la Suisse, quel est votre livre à lire absolument en cette saison estivale?
Alors, ça s'appelle « L'art suisse n'existe pas » de Michel Thévaux, édition Les Cahiers dessinés. Mmh. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que même en été, il arrive qu'il pleuve. Ouais, et là, ouais. Souvent,
ça
les, musées...
On est, mais...
les musées connaissent un pic de fréquentation. Et en fait, le livre de Michel Thévaux peut aussi avantageusement remplacer l'ennui d'un coup de soleil sur une plage bondée. Ouais. C'est un délice. Vous y trouverez les œuvres d'art créées en Suisse, analysées par la méthode intellectuelle unique de l'auteur. Il prend à rebours toutes les explications habituelles données sur un tableau et il montre la part d'ombre de l'auteur. C'est drôle, c'est intelligent, c'est très original.
Bien.
Et il vous faudra tout l'été pour le lire parce que c'est vraiment touffu.
Ah oui, d'accord. Combien de pages?
Oh, je sais pas, mais c'est dur à lire aussi.
Mais c'est formidable. Super conseil, Dominique. Merci beaucoup.
Non, il est génial, ce livre. Il faut le lire.
Bah oui, je vois. C'est n'importe quoi, cette dernière émission. Hein. C'est dur à lire, c'est long, c'est lourd.
Non, pas du tout. C'est vachement drôle. C'est vraiment drôle.
Ah bon, en plus. Bon, allez, ok. L'art suisse n'existe pas aux éditions Les Cahiers dessinés. Merci, Dominique. Il ne pleut jamais à Aix-en-Provence dans votre librairie de la Provence. Dans le sud de la France, Mathieu Colombe.
Ça n'existe pas comme mot pluie, je ne sais pas ce que ça veut dire, je suis désolé.
Donc le livre pour la plage?
Alors le livre pour la plage, c'est quelque chose qui est sorti chez Tripod. L'auteur, on ne le connaît pas, elle s'appelle Julia. Et le livre s'appelle Roulio Fauchepoil. Et en fait, c'est un livre qui n'a absolument aucune limite. Son écriture est quelque chose qui est vraiment prépondérant, parce qu'il y a vraiment une jouissance là-dedans qui est vraiment palpable, on la sent. Il y a une approche de la langue qui m'a énormément plu, parce qu'il y a de l'argot, il y a plein de trucs, mais il y a aussi des rimes, il y a des alexandrins, ça part un peu dans tous les sens. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille complètement fantasque qui habite à Paris, mais quelque part, ça c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est comment on amène les choses. J'ai adoré ce truc-là, c'est un ovni. Mais il faut absolument, absolument, au moins lire quelques pages pour voir si on aime ou pas. Mais vraiment, ne passez pas à côté de ça.
Bien, c'est bien vendu. Roulio Fauchepoil de Julia. Julia? Oui, Julia tout court. Julia tout court, aux éditions Le Tripode.
Oui.
Merci Mathieu. Cap sur le Canada, Jérémy Lagniel.
Oui, Le renard roux de l'été. C'est un roman de Françoise Deluca publié chez Marchand de feuilles. Françoise Deluca est une magicienne, tout simplement. Chacun de ses livres arrive, à mon avis, dans un trop grand silence pour la qualité de son talent. Parce que chaque fois qu'on ose lire la première page de ses bouquins, l'ampleur de la prose nous happe, le style nous fascine, la beauté cohabite avec le plus laid d'entre nous. Avec Le renard roux de l'été, son troisième roman, elle arpente la jalousie. Dans tout ce qu'elle a de plus pernicieuse, de plus naturel, c'est sidérant de justesse. C'est un livre sur une fratrie qui se déchire. Le genre de livre qu'on lit beaucoup trop vite, à mon avis, et dont on ressort en deuil d'un monde qu'on aurait espéré beaucoup plus vaste.
Bien, Le renard roux de l'été. C'est donc parfait pour l'été, hein. Déjà ouais. Avec le titre. Et c'est aux éditions Marchand de feuilles. Merci Jérémy. Déborah Damblon, on termine avec la Belgique et la douceur.
Voilà, et bien moi, après Le renard roux, j'ai un coup de cœur pour Une petite voleuse de perles, celle de Michel Plomer, une Québécoise aussi.
Bah oui.
Et c'est vraiment un roman passionnant, c'est un roman passionné, c'est délicieux, c'est délicat. C'est un livre qui va vous faire voyager très très loin et puis vous entraîner sur les traces de cette petite voleuse de perles chinoise. Mais elle est pas malhonnête, hein, je vous rassure Emmanuel, elle est juste tellement, tellement amoureuse que, enfin bon, vous comprenez. Et puis, ça c'est que le début de l'histoire parce qu'après, il va être question d'un achat inespéré, d'un petit poisson plus précieux qu'on ne le croyait, puis de la police chinoise pas très sympathique, et puis des remords cuisants, et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres rebondissements.
Bien, vous êtes merveilleux, bravo à tous les quatre. La petite voleuse de perles de Michel Plomer aux éditions Genèse. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, au revoir à tous.
Au revoir Emmanuel.
Au revoir Emmanuel.
Au revoir Emmanuel.
Ça rappelle des souvenirs. À bientôt, merci. Et à suivre l'auteur algérienne Kaouter Hadimi pour son roman Nos Richesses, entretien en présence du chanteur MC Solar. Avant cela, un hommage à France Gall qui nous a quittés en ce début d'année. Vous écoutez la dernière librairie francophone de la saison. Merci et bon week-end à travers le monde sur votre radio publique francophone.
Le que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Chouette, piano, debout. C'est peut-être un détail pour vous. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre. Heureux d'être là malgré tout. Chouette, piano, debout. Quand les trouillards sont à genoux. Et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds. Il n'y a pour sa musique qu'il était patriote. Il se mord au champ d'honneur pour quelques notes. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous les range. Son image a marqué ma mémoire. Ma mémoire. Chouette, piano, debout. C'est peut-être un détail pour vous. Et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre. Heureux d'être là malgré tout. Il jouait les pianos debout. Il chantait sur des rythmes fous. Et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essayer de vivre. Essayer d'être heureux, ça vaut le coup.
Gal en concert, extrait d'un album magnifique que je vous conseille absolument, le Tour de France 88 avec des musiciens extraordinaires. Le son est génial, écoutez cet album. C'était Il jouait du piano debout sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et bonjour Kaoutera Dimi.
Bonjour.
Vous êtes une jeune auteure algérienne, vous publiez l'un des romans les plus fascinants de cette rentrée littéraire. Nos richesses, paru au Seuil, raconte la vie et la mort d'une librairie d'Alger qui a eu une influence considérable sur le monde des lettres francophones. La librairie Les Vraies Richesses, fondée par Edmond Charlot, poussée par Jean Grenier, parrainée par Jean Giono et fréquentée par Albert Camus.
Que de grands noms.
Incroyable, elle a existé cette librairie,
et
c'est
elle
une histoire
toujours.
Vraie.
Oui, oui, c'est une histoire vraie, c'est 28 mètres carrés et c'est 28 mètres carrés qui ont donné naissance à des écrivains exceptionnels du XXe siècle, qui a donné aussi naissance à un éditeur incroyable qui a traversé tout le XXe siècle en Algérie, en France, et qui a été vraiment un passeur de mots, un créateur, presque un créateur d'auteurs, quoi.
Alors en 1936, un élève de Jean Grenier, qui fut aussi professeur de Camus, hein, Jean Grenier, rassemble 12 000 francs, deux associés, et il investit un petit local au 2 bis rue Charras, juste à côté de l'université, ceux qui connaissent Alger voient très bien. La librairie deviendra aussi maison d'édition et elle publiera notamment Noces d'Albert Camus, première édition, tirage 1225 exemplaires.
Qui met énormément de temps à écouler, et donc, et c'est devenu d'ailleurs une pièce rare, hein, cet exemplaire de Noces de Charlot. Cette petite librairie donc, était maison d'édition, mais aussi bibliothèque et galerie d'art. Hein. C'est tout petit, c'est minuscule.
Avec Bonnard.
Avec Bonnard,
l'étoile
notamment.
L'étoile de Bonnard.
Effectivement, ouais. Et il va accrocher d'autres toiles, d'autres photographies. C'est juste à côté de l'université. Et ce lieu est toujours ouvert. Donc, c'est la rue Charras.
Enfin,
l'ex-rue Charras. Ouais. Elle existe toujours. C'est une bibliothèque de près. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'étais à Alger il y a quelques semaines pour le Salon du Livre. Et j'y suis passée. Et la personne qui tient le lieu m'a dit que depuis la sortie du livre, puisque le livre est sorti également en Algérie, il y avait une foule de gens qui s'y pressaient alors qu'avant il n'y avait pas grand monde et que maintenant tout le monde passait pour voir la librairie de Charlot.
Bon, en tout cas, vous décrivez très bien l'ambiance de cette librairie dans ce quartier du centre d'Alger, proche du port, à 500 mètres de la place de l'émir Abdelkader. Pas très loin de là, il y a une autre librairie. On a une surprise pour vous, Kauter Adimi, la librairie du Tiers-Monde.
Ah,
vous connaissez?
Bien sûr, une des meilleures librairies d'Alger.
Alors, nous y sommes
un excellent
allés,
libraire.
Nous y sommes allés à la rencontre du fameux libraire et de l'écrivaine Maïssa Bey.
Ah, oui,
et c'est le
bien.
Son du monde de la semaine.
Super.
Écoutez.
Super.
Alors cette librairie, pourquoi du tiers-monde ?
Ah ben c'est parce que c'est la première librairie qui a fait partie d'une entreprise, d'une société nationale, et c'était la première société à être nationalisée. Cette librairie faisait partie du réseau de Hachette, et quand elle a été nationalisée en 65, on lui a donné le nom de tiers-monde, parce qu'à l'époque c'était une librairie spécialisée dans les livres qui parlaient que de livres de tiers-monde, et tiers-monde à l'époque avait un autre sens, c'était des pays en voie de développement, une librairie qui faisait un peu partie de la gauche de l'époque.
Voilà, en tout cas, nous sommes vraiment au centre de la ville. Hein. C'est un endroit central, il y a une mezzanine. Nous sommes installés actuellement avec les livres de cuisine à côté de nous, qui marchent très bien à Alger, paraît-il.
Oui, pas seulement, bien sûr, mais elle existe encore, cette librairie et d'autres, grâce à l'acharnement justement de ces libraires qui doivent affronter pas mal de difficultés pour pouvoir offrir à leurs lecteurs ce qu'ils attendent, en particulier dans le domaine francophone.
Venez, on va descendre Maïssa Bey, on va se retrouver juste dehors. Venez, venez par là. Quand vous regardez la ville d'Alger, cette ville-là, qui est juste devant nous.
C'est une ville que j'adore.
Ce lieu central dans lequel nous sommes, voilà, à l'extérieur
regardez
de cette librairie.
Regardez la lumière d'abord, regardez cette lumière et ce ciel, et ce monde qui est dans les rues. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Le samedi, les gens ne travaillent pas en Algérie, donc vous voyez, il y a énormément de monde, les gens se promènent, les gens profitent un peu de la chaleur et du soleil. Et c'est une ville vivante, avant tout et surtout vivante. Et je crois que c'est le mot qu'il faut retenir, lumineuse et vivante.
Ce sont vos premières sensations? Tenez, venez, allons un petit peu dans la rue.
Ouais. Oui, c'est des sensations, bien sûr, auditives. Vous entendez aujourd'hui, je ne sais pas si on peut les percevoir, mais les pas des gens dans les rues. C'est des sensations olfactives aussi, toutes ces odeurs qu'il y a autour de nous. Pas seulement des odeurs de cuisine, hein, il y a des odeurs de jasmin. Ce qui me semble essentiel, c'est cette langue qui est parlée dans les rues, cette langue, cette familiarité qui existe entre les êtres et qu'on ne retrouve que dans très peu de capitales.
Voilà, l'ambiance d'Alger. Kaoutera Hadimi,
j'étais ému. Je suis très ému parce que c'est une librairie que j'adore et que Meissabé, on a une histoire avec Meissabé parce que ça a été un des premiers auteurs que j'ai rencontré. Et qu'en 2006, j'ai participé à un concours de nouvelles. Le premier concours de nouvelles auquel je participais, le prix du jeune écrivain. Et Meissabé faisait partie des jurés. C'est quelqu'un que je connais depuis 11 ans et qui me suit. Donc je suis très, très ému. Je trouve ça très joli. Merci.
On a réalisé ce reportage il y a 2 ans à peu près.
Super, merci.
À plusieurs entrées, Kaoutera Hadimi, des récits en alternance, celui de Riyad de nos jours, qui est chargé de vider la librairie et de la repeindre pour en faire un magasin de vendeurs de beignets, le carnet d'Edmond Charlot, qui raconte toute l'épopée de cette librairie, et sa vie d'éditeur aussi, et puis toute l'histoire de l'indépendance. Tout s'entremêle, tout se croise, tout se recoupe.
Oui, c'est des parties qui se font totalement écho et qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc moi, je voulais questionner le lieu de bis de la rue Hamani, et j'ai pris comme point de départ le centenaire de la colonisation, cette célébration fastueuse du centenaire. On a l'impression que c'est définitif, que c'est pour la vie, que l'Algérie, c'est la France et que ce sera toujours ainsi.
En 1930.
Et j'ai voulu arrêter la partie historique en 1961 avec ce qui s'est passé à Paris et les massacres de la Seine, parce que je pense que ça a été un moment de cassure incroyable, que ces Algériens qui sont à un moment donné pris à côté de la Seine et jetés dans l'eau au vu au sud d'énormément de passants. Et du coup, effectivement, ça fait un roman avec 3 parties, mais ce sont 3 parties qui se font écho en permanence dans le texte. Ouais.
Et c'est vrai qu'on n'imagine pas à quel point cette librairie a permis pendant la guerre de continuer à faire exister les écrits des grands auteurs. Alors on y croise Giono, Bosco, Bernanos, Saint-Exupéry aussi, Camus. Tous ces auteurs sont publiés, et même ils sont publiés à l'international. Parce qu'Edmond Charlot a des amis qui sont aviateurs, et les aviateurs s'arrêtent à Alger,
prennent des livres
et vont les distribuer comme ça partout dans le monde.
C'est incroyable.
C'est incroyable.
Mais tout est incroyable dans l'histoire de Charlot, parce que même dès les années 30, lui, quand il ouvre sa librairie, il l'ouvre avec ce slogan un peu pompeux, par des jeunes, pour des jeunes, etc. Mais surtout, il l'ouvre avec l'idée que la littérature ne doit pas être une littérature nationale, avec une idée que le roman national, très français, etc., ça ne peut pas être que ça, et que ce que raconte l'écrivain en Égypte l'intéresse et peut lui parler tout autant que ce que raconte l'écrivain à Alger ou à Paris. Et du coup, il l'ouvre déjà avec une idée de Méditerranée et de littérature méditerranée. Mais c'est assez incroyable pour l'époque. On est dans les années 30.
Alors, deuxième surprise, on a retrouvé la voix d'Edmond Charlot. Et il parle évidemment de cette librairie Les Vraies Richesses, soutenue, je vous le rappelle, par Jean Grenier. Écoutez.
Jean Grenier, qui était un homme tout à fait remarquable, m'a dit « Mais on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour monter une librairie. Il suffit d'avoir 2 amis qui ont un peu de courage et chacun d'entre vous mettra quelques centaines de francs. Vous créez une petite société et vous verrez, ça marchera très bien. » Et on avait appelé cette librairie Les Vraies Richesses. On avait demandé à Giono, ils nous ont envoyé un télégramme en disant « Faites ». Alors, on a fonctionné comme ça. On était un peu comme des phénomènes.
Des phénomènes, exactement ça.
Oui. J'aime beaucoup le conseil qu'il donne, c'est-à-dire il dit vous n'avez pas besoin de grand-chose, vous prenez quelques copains, du courage, vous y allez. Et c'est ce que fait Edmond Charlot de manière incroyable. À 20 ans, il se lance ainsi avec
23
deux copains.
Ouais, voilà. 23 ans. 3 libraires ont lu votre roman, Kaoutera Hadimi. Mathieu Colombe, vous ouvrez le bal, allez-y.
Allez. Eh bien, moi j'avoue qu'on ne peut que tomber sous le charme en fait de nos richesses. Parce que outre le fait de parler de cette figure emblématique des métiers du livre qui est Edmond Charlot, vous parlez du métier de libraire avec une justesse et une pertinence que j'avais encore jamais vue jusqu'à présent. Donc pour moi, rien que pour ça, il ne faut pas sortir de sa librairie sans avoir ce livre dans son sac.
Claire Renaud est en Suisse. Ce roman vous a passionné, Claire.
J'ai adoré aussi. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue libraire. Vous parlez super bien de notre métier. J'ai d'ailleurs regardé plusieurs fois si vous étiez libraire avant.
Non.
J'ai adoré votre livre. Il rend hommage à la littérature avec un grand L. Et c'est Edmond Charlot qui vend en fait du rêve comme nous, n'est pas gestionnaire, n'aime pas les tracasseries administratives. Et il est tout fier de sa petite échoppe. Et j'avoue que moi, quand j'entre le matin dans ma librairie, j'éprouve cette même fierté. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé votre livre.
Annick Dor en Belgique, êtes-vous d'accord? Vous avez tranché.
Oui, tout à fait. Voilà.
Ouais, l'unanimité.
C'est vrai que pour moi aussi, c'est une très très belle découverte. Et puis j'ai trouvé, c'est vrai qu'on parle du métier de libraire, mais aussi les notes d'Edmond Charlot sont vraiment passionnantes. Il est hyper touchant. Et moi, j'avoue que j'ai refermé le livre en étant impressionnée positivement par les aspects lumineux et joyeux de cette trajectoire. Et Et puis en même temps, avec un certain accablement, une petite tristesse comme ça, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses aussi quand même voilà, désolantes qui sont abordées dans le roman.
Avec plein de petites histoires dans la grande histoire aussi. Il y a des moments très touchants avec Saint-Exupéry, par exemple.
Oh ben c'est les parties qui m'ont le plus ému, vraiment.
C'est-à-dire que Saint-Exupéry, on l'attend pour déjeuner avec Edmond Charlot, Giono, tous les autres, et il n'arrive pas. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Et en fait, on regarde par la fenêtre, et il est en bas, sur un banc, en plein soleil, avec des gamins, en train de leur construire, de leur fabriquer des petits papiers, des petits avions en papier avec l'aluminium des barres de chocolat qu'ils distribuent aux gamins.
Et c'est une vraie anecdote, et c'est vraiment dans le cœur d'Alger. C'est Edmond Charlot qui racontait cette anecdote dans une interview, et je trouve que c'est une des anecdotes vraiment les plus émouvantes sur Saint-Exupéry.
M.C. Solar, vous avez fréquenté les librairies, surtout les bibliothèques, lorsque vous étiez adolescent, paraît-il.
Oui, il y avait des trésors, quoi. Il y avait, c'était gratuit, et puis il y avait tous les livres, donc je me suis souvent baladé.
Et vous êtes le produit de vos lectures aujourd'hui ?
Je crois. Ouais. Je crois que j'allais dans celle de Villeneuve-Saint-Georges et à celle de Beaubourg. Et quand je suis allé à Beaubourg, il suffisait qu'un étudiant oublie quelque chose. Et puis je vais le prendre en sortant de l'ascenseur. Et j'avais 2 heures à lire quelque chose que j'avais pas prévu.
Kaoté Radimi, votre roman est un vrai hommage à la résistance culturelle, aux livres et aux libraires. Mais vous osez faire dire à certains de vos personnages qu'ils n'aiment pas lire. Mais finalement, vous en tirez une leçon. Alors, toute seule, hein, vous faites votre propre démonstration. Vous vous étonnez vous-même, je suppose, parce que vous dites que ce n'est pas si grave. En tout cas, vos personnages disent ça. C'est pas si grave. L'essentiel étant de prendre la mesure de l'importance des livres.
Oui, moi, je n'ai pas fait un film hollywoodien. Hein. Tout le monde n'aime pas lire. La librairie n'est pas sauvée à la fin du livre. On n'est pas du tout là-dedans, effectivement. La librairie se transforme en boutique de beignets. Et Abdallah, le dernier préposé auprès de cet endroit, effectivement, n'aime pas lire. Mais il voue un culte absolu à cet endroit. Et pour lui, le livre, c'est quelque chose de tellement sacré qu'il n'arrive pas à avoir un rapport au livre qui est tout à fait normal.
Merci beaucoup, Kaoté Radimi. Merci d'être venu parce que vous êtes très malade. Vous avez un énorme rhume.
J'ai une voix nasillarde, du coup.
Un petit peu entendu, mais c'est une très belle voix. Merci d'avoir fait l'effort. Nos richesses est parue aux éditions du Seuil. Vous étiez sélectionné pour le Goncourt, première liste. Pour le Renaudot, deuxième liste. Vous n'avez rien eu.
Non.
Mais vous avez toutes nos félicitations quand même. On vous donne le prix librairie francophone, post-prix littéraire.
Formidable. Voilà,
on vient d'inventer. Voilà.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Et pour conclure, on écoute le retour du chanteur Art Mengo avec en avant-première un extrait de son nouvel album à venir.
Croyez-moi, il est grand quand le ciel assez grand pour être vite noir de monde à chacun son bouquin. On joue diable à la ronde ou bien rien, ou bien rien. Du bleu des satellites, des nuits météorites. Croyez-moi, il est grand quand le ciel assez grand pour que chacun dans son coin plonge au fond du zodiaque. Il trouve un strapontin, un fauteuil, un hamac pour regarder passer les gens passer. Entre sol et soleil, il y a le ciel, il y a le ciel et des vents qui s'emportent. Des tas de lettres mortes. Entre sol et soleil, y a le ciel, y a le ciel. Et midi à sa porte, ou bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand quand le ciel assez grand pour cueillir en son sein le bonheur, la misère. Des avions et des saints, Apollo, des prières. Les paroles d'hirondelles et celles des aigles scènes. Croyez-moi, il est grand quand le ciel assez grand pour décider tout seul s'il sera rouge ou gris. Tant pis pour ceux qui veulent en faire mauvais la vie. Moi je crois qu'il est changeant. Combien des sentiments entre sol et soleil. Y'a le ciel, y'a le ciel, et des vents qui s'emportent, des tas de lettres mortes. Entre sol et soleil, y'a le ciel, y'a le ciel, et midi à sa porte, ou bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel assez grand.
Art Mengo avec un extrait de son nouveau titre en avant-première, Grand le ciel, pour conclure cette saison de la librairie francophone. Et c'est la fin de cette édition spéciale avec ce florilège des grands moments qui ont marqué cette saison. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Henri-Marc Mutel avec Jérémy Guillon à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Felé et Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. Merci à eux pour leur travail exceptionnel et leur soutien tout au long de cette saison. Merci à vous pour votre fidélité sans faille. Nous faisons cette émission pour vous et en pensant à vous chaque instant. On se retrouve tout l'été dans la librairie francophone estivale avec des rencontres et des reportages exceptionnels. Nous allons vous faire voyager à travers le monde avec de nombreux moments inédits. Bon week-end à tous et surtout, très bel été. À bientôt, salut.